Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour moi d'être de retour ici aujourd'hui et je veux vraiment remercier M. Alain Prochian, professeur au Collège de France, de m'avoir invité à vous parler d'un sujet qui m'est familier puisque je suis, comme il vous l'a dit, embryologiste et puis que j'ai écrit quelques livres sur ces problèmes de la régénération des cellules souches et de la médecine régénérative, problèmes qui sont finalement très proches du problème du développement de l'embryon et de l'adulte à partir de l'œuf. Alors, dans ce symposium qui a pour thème « Science et démocratie », je suis particulièrement heureuse de participer à la session qui est consacrée à la liberté de la recherche. En effet, les recherches biologiques qui ont ouvert des perspectives thérapeutiques nouvelles et permis d'espérer l'émergence d'une médecine régénérative constituent, à mon sens, un des meilleurs exemples de la nécessité qu'il y a d'accorder aux chercheurs un très grand degré de liberté. Mon propos va consister à vous montrer comment des recherches portant sur des problèmes et modèles divers sont en train de converger vers la mise au point de nouvelles voies thérapeutiques qui viendront très heureusement, nous l'espérons, compléter celles déjà efficaces et qui ont évolué au cours du XXe siècle. Tout d'abord, j'aimerais souligner que nombre des expériences qui ont abouti à ces résultats prometteurs ont été faites sur des êtres vivants qui, aux yeux du public, sont de peu d'importance, lui sont souvent inconnus et lui paraissent appartenir à un monde tout autre que celui des êtres humains, ce qui, du point de vue biologique, est faux. Je pense en particulier à la minuscule mouche drosophile qui est chère aux généticiens et puis aussi à un petit ver que vous voyez là fort grandi car il ne mesure que quelques dixièmes de millimètre, et il s'appelle Caenorhabditis elegans, c'est un nom très compliqué, et c'est un modèle expérimental qui a été proposé il y a une quarantaine d'années par un maître de la biologie moléculaire, Sydney Brenner, et qui s'est révélé d'être d'une grande utilité. Les recherches sur ces modèles, comme celles qui ont été effectuées plus classiquement sur la souris ou sur d'autres vertébrés, comme le poulet ou la grenouille, ont en effet été à l'origine de découvertes qui intéressent au premier chef l'espèce humaine, même si à l'origine, leur but était de répondre à des questions dans les domaines de la génétique, de la biologie moléculaire ou d'autres sujets en apparence éloignée de toute application. Le XXe siècle, au moins dans sa seconde moitié, est considéré comme le siècle de la biologie. En effet, une évolution s'est produite dans la pensée biologique très importante dès lors qu'a été connue la nature chimique du support de l'hérédité, l'ADN. Les méthodologies de la biologie moléculaire qui en ont découlé ont ouvert des possibilités nouvelles d'investigation qui se sont révélées d'une extrême fécondité. Mais à côté de cette révolution, il y en a eu une autre, plus discrète, dont l'importance n'a été reconnue que plus tard, et elle a consisté dans la découverte d'un type cellulaire, jusque-là complètement ignoré, celui des cellules souches. En effet, jusqu'au début des années 60, on ne parlait pratiquement pas de cellules souches. Et si on trouve ça et là dans la littérature ce terme, il était utilisé pour désigner des entités qui étaient mal définies et diverses. Ce n'est qu'au début des années 60 que l'on a pu apporter une définition de ce type cellulaire basée sur une analyse expérimentale. Et à partir de ce moment-là, on a vu se développer un très grand nombre de recherches qui ont montré l'importance tout à fait capitale de ces cellules. En effet, on s'est aperçu que la survie même des organismes multicellulaires dépend de l'activité biologique des cellules souches. Pourquoi ? Parce qu'elles sont les seules cellules qui produisent des tissus et qui réparent les blessures pendant toute la vie de l'organisme. Elles sont par conséquent des cellules qui nous sont nécessaires. Et l'existence de ces cellules, elle est en rapport direct avec l'apparition de ce que l'on appelle la multicellularité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, dans l'histoire de la vie, les êtres vivants ont cessé de n'être que des cellules uniques, une situation qui perdure dans les bactéries et dans ce que l'on appelle aujourd'hui les protistes. Et à partir du moment où certains êtres vivants ont été constitués de groupements de cellules, sont devenus multicellulaires, et on a alors vu qu'il était avantageux, du moins c'est l'évolution a sélectionné ce phénomène, qui est celui du partage des tâches des cellules dans l'organisme. Et pour cela, les cellules de l'organisme multicellulaire se sont diversifiées, c'est-à-dire qu'elles ont acquis des structures qui leur permettent de remplir des tâches particulières efficacement et pour l'économie de l'organisme entier et au bénéfice de l'organisme entier. Mais cette différenciation cellulaire qui a été avantageuse pour l'évolution des êtres multicellulaires, elle a eu une conséquence, c'est le fait que quand les cellules sont différenciées, eh bien, elles perdent très généralement la capacité de se multiplier. Et elles ont, au moment de la différenciation, une certaine durée de vie qui leur est assignée. En d'autres termes, les cellules différenciées sont vouées à mourir. Et la mort cellulaire est apparue à partir de cette notion comme un phénomène qui est naturel et un phénomène qui est utile pour l'organisme. Pourquoi est-il utile pour l'organisme ? Eh bien parce que ces cellules qui meurent sont remplacées par des cellules jeunes, des cellules qui vont être tout à fait fonctionnelles et qui sont le résultat de l'activité des cellules souches. Ce phénomène de mort qu'on appelle apoptose est quelque chose qui a été découvert curieusement à peu près dans la même période historique que l'existence des cellules souches. Et en effet, c'est un phénomène que l'on peut appeler suicide cellulaire et qui a pour caractéristique que les cellules qui ont atteint le terme de leur durée de vie vont mourir d'une manière extrêmement discrète, c'est-à-dire qu'elles vont non pas exploser comme dans le cas de nécrose, phénomène de mort cellulaire qui était bien connu, mais au contraire, elles vont se compartimenter à l'intérieur d'elles-mêmes et elles vont en quelque sorte commencer par s'autodigérer. Et s'il reste des débris résultant de la mort d'une cellule, eh bien ces débris vont être immédiatement absorbés par les cellules avoisinantes. Donc l'apoptose est quelque chose qui ne se voit pas quand on regarde un tissu et même quand on le regarde très finement et qu'on en analyse qu'on analyse son évolution au microscope. Comment donc ce phénomène d'apoptose a-t-il été découvert ? Eh bien, on s'est aperçu qu'il était déclenché par un programme génétique qui existe dans toutes les cellules, même les cellules qui sont des cellules uniques. Et que il a été découvert, mais d'une manière très indirecte. Et sur ce petit ver, le Caenorhabditis elegans que je vous ai montré au début, par deux chercheurs, Robert Horwitz et John Stulston, dans les années 1980-1990. Le petit ver en question a une larve qui fait 888 cellules. Toutes les larves de Caenorhabditis aboutissent au même nombre de cellules à la fin de leur développement. Et Sulston s'est assis devant le microscope à regarder se développer l'œuf de Caenorhabditis elegans, et il a suivi cellule, division par division, quel était le devenir de chacune des cellules produites. Et il s'est aperçu qu'il y avait, au cours de ce développement, un certain nombre de cellules qui mouraient, et qui mouraient toutes au même moment, au même endroit, dans tous les embryons examinés. Et évidemment, Horwitz a fait des mutants, et il s'est aperçu que quand certains gènes étaient mutés, eh bien, il y avait des anomalies dans le déroulement de ce phénomène de mort. Et ceci lui a permis de trouver quels étaient les gènes responsables de la mort cellulaire. Mais si ça ne s'était borné qu'à exister que chez le Caenorhabditis elegans, ça aurait été une belle découverte, mais enfin quelque chose qui n'avait pas une importance énorme. Mais on s'est aperçu que ces gènes existaient aussi chez l'homme, chez tous les êtres multicellulaires. Et c'est grâce à ce phénomène d'apoptose que nos tissus, en quelque sorte, se régénèrent en permanence. Quand on pense que l'évaluation qui est faite de ce que nous, êtres humains, perdons chaque jour à la suite de la mort de nos cellules, ceci monte à un nombre de 70 à 100 milliards. Dans une journée, et dans une année, c'est le poids entier de notre corps qui est éliminé et qui est renouvelé grâce aux cellules souches. Quels sont donc les caractères de ces cellules souches dont je vous parle depuis un petit moment, et en quoi est-ce qu'elles se distinguent des autres cellules? Eh bien, ce petit schéma vous montre trois compartiments. Le compartiment des cellules souches. Ce sont des cellules qui existent dans tous nos tissus, maintenant nous le savons. Elles sont en petit nombre et elles sont dans des zones isolées, d'une certaine manière, du reste du tissu. Elles sont dans des niches et elles ont une caractéristique, c'est d'être indifférenciées. C'est parce qu'elles sont indifférenciées qu'elles sont très peu visibles, qu'elles sont de petite taille en général, qu'elles sont passées inaperçues pendant si longtemps. À chaque fois qu'une cellule souche se divise, elle va donner naissance à deux cellules qui n'auront pas du tout le même destin. L'une redeviendra une cellule souche comme la cellule mère, donc elle maintiendra le stock de réserve de ces cellules, et l'autre va au contraire entrer dans une phase de prolifération intense, plus ou moins intense selon les cas, selon les tissus, selon les moments, mais quand même toujours une phase de prolifération, à l'issue de laquelle les cellules qui en résultent vont se différencier en types cellulaires différents. Par conséquent, les trois caractéristiques des cellules souches, c'est qu'elles sont indifférenciées, qu'elles sont pluripotentes, ça veut dire qu'elles donnent naissance à des cellules qui ont divers phénotypes, et qu'elles se divisent d'une manière asymétrique. Et c'est cette division asymétrique qui est surtout la caractéristique essentielle des cellules souches. Le fait qu'elles se divisent d'une manière asymétrique permet, comme je vous le disais, le maintien d'une réserve stable de cellules qui assure l'homéostasie des tissus. L'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre convenable entre les cellules en voie de différenciation et les cellules qui sont pleinement fonctionnelles. Maintenant, comment est-ce que toutes ces notions que je viens de vous exposer ont germé, l'idée a-t-elle germé dans l'esprit des chercheurs dans les années, début des années 60? Quelle est donc l'origine du concept de cellules souches? Eh bien, c'est en étudiant le renouvellement des cellules sanguines que ceci s'est fait. Vous savez bien que quand on a une hémorragie, si elle n'est pas trop importante, la quantité de sang est régénérée assez rapidement. Il y a donc une capacité de produire du sang très vite dans nos organismes. D'autre part, on savait aussi que la durée de vie d'une cellule sanguine n'est pas longue. Une cellule très différenciée, par exemple, un globule rouge va vivre 120 jours après qu'il soit devenu tout à fait fonctionnel. Alors, nous en avons 4 ou 5 millions par millimètre cube, nous avons 5 litres de sang, on n'a qu'à calculer ce qu'il faut produire comme cellule pour avoir ce qu'on appelle l'homéostasie du système sanguin. Or, on savait que dans la moelle osseuse et aussi dans la rate, il y avait beaucoup de cellules de type sanguin qui étaient immatures et qui étaient en phase de prolifération rapide. Alors, on se pensait que peut-être la moelle osseuse pouvait avoir quelque chose à voir, et la rate aussi, avec la production de sang. Mais c'est à la suite d'un événement extrêmement malheureux que quelque chose d'important est survenu dans l'acquisition de ce concept. Ce sont les bombardements atomiques des villes d'Hiroshima et de Nagasaki. Les malheureuses victimes de ces bombardements, quand elles n'étaient pas mortes au moment de l'explosion, mouraient généralement une quinzaine de jours après dans un état d'anémie très profond. Et alors, à l'époque, on s'est dit, pour essayer de comprendre ce qui se passait, on devrait prendre des embryons, des souris, pour voir si on pouvait reproduire, en quelque sorte expérimentalement, ces événements. Et il est possible d'irradier le corps entier avec des souris et aboutir exactement aux mêmes conséquences que celles que l'on observait sur les victimes des bombardements. Mais ce qu'on a pu faire chez les souris, c'est empêcher ces souris irradiées à une dose convenable de mourir en leur injectant de la moelle osseuse de souris histocompatibles, c'est-à-dire de la même souche. Et alors, on s'est aperçu qu'à ce moment-là, on renouvelait rapidement le pool de cellules sanguines circulantes. Alors ça, c'était simplement le résultat de la mise en circulation des cellules que l'on injectait avec la moelle osseuse. Mais dans un certain nombre de cas, la souris était complètement sauvée, elle avait une durée de vie normale. Pourquoi ? Parce que dans les cellules de moelle osseuse qu'on lui avait injectées, il y avait des cellules en très petit nombre qui étaient capables de se greffer, c'est-à-dire de s'installer durablement dans la moelle vide de l'hôte, et là, de jouer le rôle de cellules productrices, de cellules souches productrices de sang. Mais alors, à l'époque, déjà, il y avait la notion de ces quelques cellules capables de produire du sang, mais étant donné que dans le sang, il y a des cellules de très diverses formes et structures et fonctions, on ne savait pas si c'était une seule cellule qui était capable de produire toutes ces diversités de cellules. C'était à ce moment-là la théorie monophylétique de la production du renouvellement de cellules sanguines qui était valable, ou si au contraire il y avait une cellule souche qui était spécialisée pour produire chaque type de cellule sanguine. Et il y a deux chercheurs de l'Université de Toronto qui, en 1961, ont publié un papier, comme on dit en anglais, séminal, c'est-à-dire fondateur. On les a appelés même les fathers of the field, the field of the stem cell field. C'est James Steele et McCulloch. Et ces gens se sont dit, pour savoir s'il s'agit d'une cellule ou bien de plusieurs cellules qui sont nécessaires pour fabriquer du sang, au lieu d'injecter à la souris qui a été irradiée des millions de cellules, une grosse quantité de cellules provenant de la moelle osseuse, on va diminuer la dose, on va leur en injecter le moins possible. Et la bonne dose qu'ils ont trouvée, c'était 100 000 cellules. Et alors là, voilà ce qui se passe. J'ai choisi de vous montrer cette expérience parce qu'elle est à la fois simple et un petit peu géniale. Vous voyez, quand on a irradié tout le corps de la souris et qu'on a tué ces cellules en voie de division, parce que ce sont les cellules qui se divisent, qui sont sensibles aux radiations ionisantes et qui meurent à ce moment-là, la rate, au lieu de garder son volume normal, d'être bien bombée, elle devient plate comme ça. Et puis, quand on injecte une grande quantité de cellules de moelle osseuse, elle grossit et elle prend une forme de rate normale. Mais quand on injecte une petite quantité de cellules de moelle osseuse, eh bien, on se rend compte que la moelle, elle se retrouve au bout de quelques jours, d'une dizaine de jours, recouverte de petites bosses, de petites protubérances, qui sont souvent indépendantes les unes des autres. Alors, ils se sont dit, peut-être que c'est dû au fait que c'est une cellule, parce que les cellules sont rares dans la moelle osseuse, naturellement, les cellules souches, une cellule qui a été à l'origine de chacune des petites protubérances. Ou peut-être que dans chaque protubérance, il y a une colonie de cellules qui correspond, à, par exemple, à des globules rouges, une autre à d'autres types de globules blancs. Et alors, ils ont regardé ce qu'il y avait là-dedans et ils ont trouvé qu'il y avait tous les types de cellules sanguines. Et ils ont, par une autre expérience que je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais ils ont trouvé que c'était une seule cellule qui avait produit tout cela. Et ensuite, ils ont fait une autre une expérience qui est aussi très amusante, qui consiste à utiliser des cellules provenant d'une de ces protubérances, donc qui provient d'une seule cellule souche, à l'injecter à une autre souris irradiée, à s'apercevoir que la rate de l'autre souris irradiée redevient identique à celle-ci, et que par conséquent, dans ce qu'ils avaient injecté, ils avaient injecté non seulement des cellules différenciées, mais aussi des cellules souches qui ont été capables de s'auto-renouveler. Par conséquent, ils avaient véritablement trouvé qu'il y avait ce que c'était qu'une cellule souche, une cellule qui s'auto-reproduit et qui donne une cellule, nouvelle cellule souche, et une autre qui fournit une grande quantité de cellules qui vont se diversifier et par conséquent qui démontre que la cellule souche est pluripotente. Alors on peut schématiser l'existence de cette cellule souche hématopoïétique, la première cellule souche qui a été découverte et décrite de la manière suivante, avec cet auto-renouvellement, cette prolifération et puis ensuite toutes les différentes catégories de cellules sanguines. Et je voudrais souligner ici un autre grand nom, c'est celui de Irving Weissman, qui est professeur à l'université de Stanford et qui a été capable de caractériser les différentes étapes de cette évolution à partir de la cellule unique souche en cellules différenciées en montrant quelles sont les caractéristiques moléculaires précises qui sont significatives de tel et tel stade de leur évolution. Et il a été capable de faire ça non seulement sur la souris, mais aussi sur l'homme, et il a même été le premier à isoler des cellules souches hématopoïétiques humaines. Et je dois dire que toutes ces expériences ont été d'une très grande importance puisqu'elles sont à l'origine de la greffe de moelle osseuse que l'on fait chez l'homme et qui sauve la vie d'un certain nombre de personnes qui ont des maladies du système sanguin. Alors, donc vous voyez comment on a trouvé les cellules souches chez l'adulte, mais il y en a d'autres. Et je voudrais vous parler de deux autres types de cellules souches qui sont des cellules qui appartiennent à des tissus qui se renouvellent très vite. Par exemple, la peau, qui se renouvelle en 30 jours chez l'homme, l'épithélium intestinal qui se renouvelle en 3 à 5 jours chez l'homme. Alors, la peau, je vais très vite. La peau, elle, c'est l'épiderme, en fait, qui se renouvelle en permanence, qui donne naissance, ces cellules souches de l'épiderme, à différents types cellulaires, celles de l'épiderme lui-même, la couche cornée, celles des fanaires, les glandes sébacées, ici, et les glandes, ici, et les glandes sudoripares. Et toutes ces structures peuvent être obtenues avec des cellules souches qui sont particulièrement concentrées ici dans la racine du poil, dans une zone qu'on appelle le bulge. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que déjà en 1990, et même à la fin des années 80, un chercheur du nom de Howard Green, qui est professeur à l'université de Harvard à Boston, avait trouvé un moyen pour fabriquer in vitro de la peau, et ceci de façon à soigner des brûlés. En prenant un petit morceau de peau chez les brûlés graves qui étaient restés intacts et en dissociant ces cellules, en les cultivant dans un milieu adéquat, on voit qu'apparaître ici dans le premier flacon que vous voyez là, qui est mis droit alors qu'évidemment la culture est horizontale, on a ensemencé des cellules isolées, mais celles-ci ont formé des petites colonies qui deviennent de plus en plus grosses et qui, au bout de 2 semaines, forment une couche que l'on peut utiliser pour soigner les malades. Et par conséquent, c'est le deuxième exemple de thérapie cellulaire par médecine régénérative. Alors maintenant, l'épithélium intestinal, ça, c'est assez amusant, parce que l'intestin, notamment le grêle, mais aussi le côlon, et à une surface qui est extraordinairement amplifiée, d'abord par des replis, comme vous voyez là, et sur toute la surface par de ce qu'on appelle des villosités. À la base des villosités, il y a un petit renfoncement qu'on appelle crypte, et à l'intérieur de la crypte, qui est ici redessiné, il y a des cellules, quelques cellules. Et ces cellules, on avait montré déjà, il y a un certain temps, que c'était des cellules qui se divisaient peu, mais que lorsqu'elles se divisaient, elles donnaient naissance à des cellules qui remplaçaient progressivement toutes celles de la crypte et puis qui continuaient, en se différenciant, à remplacer les cellules de la villosité. De sorte qu'en 3 à 5 jours, tout est entièrement renouvelé. Et les cellules se différencient, vous voyez, elles ont des structures tout à fait différentes les unes des autres. Alors, je vous parle de ce phénomène-là parce que c'est le résultat d'une étude qui a fait des progrès récents tout à fait extraordinaires grâce à un chercheur qui se trouve à Utrecht et qui s'appelle Hans Clevers et qui a observé que ces cellules qui sont à la base des cryptes, elles expriment un gène qui est à l'origine d'un récepteur membranaire qu'on appelle LGR5. Et avec un système génétique, on arrive à rendre ces cellules fluorescentes en vert, comme vous pouvez le voir là. Alors, une fois que ces cellules sont, qu'on les connaît et qu'on peut fabriquer un anticorps, par exemple, contre LGR5, on peut aussi les isoler, ces cellules. Et on les isole, et ce qu'a fait Hans Clevers, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a mis ces cellules isolées en culture, et il a observé qu'elles se multipliaient et qu'elles formaient d'abord des amas. Et quand il regardait ces amas, il voyait qu'il s'agissait en réalité de structures qui ressemblaient à des intestins. Et ici, vous voyez un micro-intestin, un organoïde, dans lequel il y a des villosités qui sont ici, mais il y a aussi des cryptes. Et à la base des cryptes, on retrouve les cellules qui sont les fameuses cellules LGR5, les cellules qui sont à l'origine de la reconstitution de tout le système. Donc, avec une cellule de cette sorte, on peut fabriquer un mini-intestin. Et alors, il a montré récemment que sur des souris, sur lesquelles il a fait des lésions de l'épithélium du côlon, et il injecte des organoïdes de ce type, et qu'ils se fusionnent avec la région lésée et peuvent reconstituer l'épithélium qui a été lésé. Par conséquent, ceci constitue un espoir d'une nouvelle thérapie par les cellules, c'est-à-dire de médecine régénérative, pour des maladies inflammatoires de l'intestin comme la maladie de Crohn. Alors, il y a d'autres cellules souches de l'adulte qui sont beaucoup plus lentes. En particulier, il y en a qui sont dans notre cerveau, ce qui a été une grande découverte parce qu'on pensait que c'était quelque chose de tout à fait impossible, étant donné qu'on pensait que le nombre de neurones qu'avait le bébé quand il naît est celui maximum qu'il peut avoir toute sa vie. Et que pendant toute la vie, on ne faisait que perdre des neurones. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Bien que les neurones aient une durée de vie longue, dans la plupart des cas, en réalité, il y a des cellules souches dans le cerveau capables de fournir de nouveaux neurones, et particulièrement dans les zones qui sont consacrées à la mémoire. Maintenant, d'où viennent les cellules souches qui sont chez l'adulte et que je viens de vous décrire? Eh bien, si on regarde bien les choses depuis l'œuf, on s'aperçoit qu'il y a trois types de cellules souches. Celles qui servent au renouvellement, à la régénération des tissus, je viens de vous les décrire. Et puis alors, d'autres qui existent dans l'embryon tout à fait précoce. C'est-à-dire les cellules qui sont formées dès que l'œuf commence à se multiplier. Ces cellules sont présentes au stade dit blastocyste chez les mammifères. Et cet état, qui correspond à un état où les cellules sont totipotentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent faire produire tous les types cellulaires de l'adulte, plus les annexes embryonnaires, comme le placenta. Et c'est un stade qui n'est pas qui est très, très court dans le développement des mammifères, mais c'est un stade très important parce qu'on a trouvé le moyen de le capter, en quelque sorte, et de le maintenir d'une manière indéfinie, en culture in vitro. Alors, entre ces deux stades, totipotent et puis le stade pluripotent qui est là, eh bien, vous avez l'embryon, et progressivement, ces cellules qui sont totipotentes vont se restreindre dans leur capacité de différenciation pour aboutir ici à des cellules souches qui ne seront capables de fournir que des cellules du tissu dans lequel elles se trouvent. Alors, je voudrais vous montrer un petit peu comment se développe l'œuf. Vous voyez ici, c'est l'œuf, c'est une œuf de souris, avec les deux noyaux, le mâle et la femelle. Et la cellule œuf est totipotente. Les deux cellules qui résultent de la première division aussi, les quatre cellules aussi, mais à partir d'un certain moment, quand les cellules deviennent plus nombreuses, on voit qu'il se forme à l'intérieur de l'embryon une cavité qu'on appelle blastocèle, et puis on voit se former une couche tout autour qui va devenir le placenta. Et l'embryon lui-même, l'adulte, la souris ou l'homme, va se développer à partir de cette petite masse de cellules qu'on appelle la masse cellulaire interne, inner cell mass, ou bouton embryonnaire en français. Alors, la fécondation se fait au niveau de la trompe ovarienne, et puis toutes ces stades se déroulent lorsque l'œuf fécondé descend de la région de l'ovaire vers l'utérus. Quand il arrive à l'utérus, il y a ce qu'on appelle l'éclosion de l'embryon par ouverture du chorion qui se trouve autour. Et quand l'embryon en est à ce stade, il ne peut plus être cultivé in vitro, alors que tous les autres stades peuvent très bien se dérouler in vitro. Et c'est ce qui a permis la procréation médicalement assistée chez l'homme. Mais quand l'embryon en est là, il faut qu'il trouve l'utérus pour pouvoir prolonger son développement. Alors, il y a un premier événement extrêmement important qui s'est produit en 1981, c'est qu'on a réussi à maintenir ces cellules de l'inner cell mass d'une manière permanente en phase de prolifération et en leur permettant de conserver toute leur capacité de différenciation. Et c'est ce que l'on a appelé les cellules embryonic stem cells ou cellules ES. Et les deux papiers tout à fait fondamentaux sont celui du groupe anglais, Evans et Kaufman, et puis celui d'une américaine qui travaillait d'ailleurs en Angleterre, qui, avec une autre méthode un peu différente, a produit la même chose. En quoi consistait cette extraordinaire capture d'un stade embryonnaire ? Eh bien, c'est que les conditions de la culture ont été modifiées et en particulier, il y a une couche de cellules qu'on appelle les feeder layers, une couche de cellules qui produit des facteurs qui sont capables de produire cela. Alors, en effet, ces cellules souches embryonnaires, vous voyez, elles se divisent indéfiniment, c'est-à-dire qu'elles sont immortalisées, elles restent indifférenciées, elles gardent leur capacité de différenciation les mêmes que les cellules de l'embryon précoce dont elles dérivent, et elles expriment ces capacités de différenciation si on leur change de milieu, c'est-à-dire si on les met dans d'autres milieux de culture avec d'autres facteurs de différenciation, ou bien si on les greffe dans un embryon. Et ces cellules, eh bien, elles gardent un principe, sauf cas exceptionnel, elles gardent des chromosomes tout à fait normaux en nombre et ceci les différencie d'autres cellules immortalisées que sont les cellules cancéreuses, qui aussi peuvent être maintenues en culture d'une manière indéfinie, mais qui sont tout à fait anormales du point de vue de leur ADN. Alors, ces cellules ES sont donc un produit des biotechnologies. Elles sont pluripotentes et elles représentent donc un stade tout à fait transitoire. Alors, cette expérience extraordinaire, elle a été faite à partir d'une souche de souris qui était la souche dite 129. Et les autres souches de souris ne se prêtaient pas du tout à cette immortalisation, même dans des milieux de culture qui ont été renouvelés, modifiés, etc. Et il a fallu 17 ans pour qu'on trouve le moyen de mettre au point des milieux de culture qui permettent l'obtention de cellules ES, c'est-à-dire embryonic stem cells, à partir d'un embryon, dans d'autres espèces. Et vous voyez, ça, ce sont les cellules de souris. Le papier essentiel qui montre cette nouvelle ère est sorti en 1998 Et il a été écrit par James Thompson, qui était à l'université de Wisconsin et qui avait été, s'était procuré des embryons humains dans une clinique qui faisait la procréation médicalement assistée. Et là, vous voyez que c'est la première fois qu'il avait obtenu cela. Il avait obtenu auparavant la même chose avec le Macacus rhesus. Alors, ici, évidemment, ça a ouvert une perspective de médecine régénérative applicable à l'homme. Mais cette technique qui consiste à donc immortaliser des cellules souches, des cellules très précoces de l'embryon humain pour les transformer en cellules souches, pose des problèmes qui sont à la fois éthiques et puis qui sont aussi biologiques. Alors, les problèmes éthiques, ils sont posés parce que, évidemment, cette pratique provoque la destruction d'embryons humains. Et ceci n'est pas du tout admis par certains groupes de pensée, en particulier la religion catholique. Mais ça n'est pas le cas de toutes les religions. Par exemple, la religion juive considère que le statut de l'embryon humain n'est pas applicable au germe quand il est très précoce. Il n'est applicable au germe que lorsque celui-ci s'est développé jusqu'à un certain stade, qui correspond à peu près à 40 jours après la fécondation. Par conséquent, il est considéré, dans ce cas-là, que de travailler sur des cellules souches ES, obtenues à partir d'embryons humains, est quelque chose qui est éthiquement acceptable. Maintenant, le deuxième problème, c'est le problème suivant. C'est que si on veut faire une médecine régénérative avec des cellules souches humaines, eh bien, on utilisera des cellules qui proviennent d'un embryon que l'on a transformé en une lignée cellulaire, mais qui n'aura pas les mêmes groupes HLA que le receveur. C'est-à-dire que ces cellules seront susceptibles d'être rejetées immunologiquement par le receveur. Alors, ces deux problèmes, le problème éthique et ce problème-là, sont en quelque sorte en voie d'être résolus parce qu'il y a eu une nouvelle grande découverte qui a eu lieu récemment, en 2006, grâce au travail d'un groupe japonais. Mais pourquoi est-ce que le groupe japonais a fait ça ? Il n'était pas seul à s'intéresser à cette question, qui est la question suivante. Quels sont les gènes qui sont responsables de l'état souche ? Quels sont les gènes qui sont actifs dans les cellules souches et pas actifs, au moins tous ensemble, dans les cellules différenciées ? Pourquoi ces cellules souches restent dans cet état indifférencié ? Pourquoi est-ce qu'elles n'évoluent pas ? Alors que si on leur donne des conditions convenables, elles devraient évoluer. On a trouvé un certain nombre de gènes et... Ce groupe japonais, qui est dirigé par Shinya Yamanaka, en a trouvé 24. Et alors, il a eu l'idée de fixer ces gènes dans des vecteurs rétroviraux et de les introduire dans des cellules, qui étaient des cellules de souris, prélevées dans le derme, dans la peau. Ces cellules-là, c'est des cellules de type conjonctif. On les appelle des fibroblastes en culture parce qu'elles ont une forme allongée. Et alors, il a injecté ces 24 gènes. C'était très long, très compliqué. Mais il s'est aperçu qu'au bout d'un certain temps, dans la culture de fibroblastes, un certain nombre de cellules changeaient de forme et proliféraient beaucoup à la surface de la couche de fibroblastes. Elles faisaient des espèces de petites protubérances où les cellules étaient rondes. Il a regardé ces cellules de près, il les a retransplantées dans un autre récipient et il s'est aperçu qu'elles avaient toutes les propriétés... Il faut que j'arrête. Presque. Je peux. J'ai presque fini. Alors, qu'elles avaient toutes les propriétés des cellules souches, ES. Et au fur et à mesure qu'il a continué à travailler, il s'est aperçu qu'il n'y avait pas besoin des 24 gènes, mais qu'avec simplement 4 de ces gènes, qui sont ici, on pouvait très bien transformer des cellules adultes en cellules embryonnaires qui avaient toutes les capacités des cellules embryonnaires. Il a donc publié un papier en 2006 pour expliquer ce qu'il avait fait chez la souris, et en 2007, il publiait la même chose pour l'humain. Alors, donc, ce qu'il avait montré, c'est que l'état différencié, qui était considéré comme un état stable, eh bien, n'était pas si stable que ça. Et qu'on pouvait retransformer une cellule différenciée en cellule jeune, même en cellule embryonnaire, et une cellule embryonnaire qui est capable de faire tous les types de cellules de l'animal adulte, exactement ou presque comme des cellules ES. Alors ici, cette reprogrammation des noyaux par des gènes, eh bien, c'est quelque chose qui peut être fait par d'autres méthodes, qui étaient des méthodes anciennes, mais dont on n'avait pas bien compris la signification. Et par exemple, dans la production de ce qu'on appelle des hétérocaryons, c'est-à-dire la fusion d'une cellule souche, d'une cellule jeune embryonnaire avec une cellule plus âgée, on va transformer l'activité génétique des noyaux par l'intermédiaire de facteurs qui se trouvent dans le cytoplasme. Et puis, évidemment, il y avait aussi les méthodes de transfert nucléaire dont vous a parlé déjà M. Prochian, et qui ont permis à John Gurdon d'avoir le prix Nobel avec Shinya Yamanaka il y a 2 ans. Alors, ce que je voulais terminer en vous montrant quelque chose de tout à fait nouveau, qui est tout à fait extraordinaire. Il a été possible de mettre au point des milieux de culture dans lesquels des cellules souches, dans le cas c'est des cellules ES ou des cellules induites, pluripotentes, cellules IPS, on a pu les cultiver in vitro, et à partir de cellules qui sont cultivées in vitro, qui forment et vont former, mais à condition de les cultiver dans un gel tridimensionnel, qu'on appelle matrice gel et qui est le résultat de l'addition dans un milieu de culture liquide de protéines qui sont des protéines du milieu extracellulaire normal, on arrive à obtenir la formation d'organes avec des cellules souches qui ne sont tout à fait indépendantes de tout le reste de l'organisme. Et je vous montre, par exemple, la formation d'une vésicule que vous pouvez voir là, à partir d'un organoïde qui ressemble un petit peu à ce que je vous ai montré dans le principe pour l'intestin. Et à partir de cet organoïde, vous voyez qu'ici, il y a une structure arrondie. Eh bien, cette structure arrondie, ça n'est autre chose qu'une vésicule optique, c'est-à-dire l'ébauche de l'œil. Quelque chose qui se développe comme l'œil, avec une couche externe mince et une couche interne beaucoup plus épaisse. Et quand on regarde les différenciations, eh bien, dans la couche externe, il y a du pigment, c'est-à-dire ça vous fait la rétine pigmentaire, et dans la couche interne, vous voyez des stratifications de cellules qui correspondent aux stratifications des cellules de la rétine, la vraie rétine. Et puis, encore tout à fait récemment, c'est sorti ce mois-ci dans Nature, eh bien, il y a un groupe qui a réussi, en changeant un petit peu le milieu, mais toujours à partir de cellules souches ES ou IPS, d'avoir une espèce de petit cerveau, ce qu'on appelle une mini-brain. Pourquoi je dis que c'est un petit cerveau? Parce qu'en regardant bien tout ça, on voit qu'il y a des neurones qui ressemblent aux neurones du cortex cérébral, des cellules qui sont tout autour, qui sont de la glie. Et puis on voit ici encore une structure qui est une structure qui se développe dans notre cerveau et qui s'appelle le plexus choroïde, c'est-à-dire ce sont ces cellules-là qui sont responsables de la formation du liquide céphalo-rachidien. Donc, les cellules ES ont une capacité de s'auto-organiser, self-organization, comment dire en anglais. Elles s'auto-organisent et elles forment dans un milieu en 3 dimensions quand elles peuvent. C'est de la culture organotypique, comme on en faisait jadis, mais qui peut être produite par simplement des cellules embryonnaires directement. Alors, si tout cela est vrai, si tout cela un jour arrive à devenir une vraie médecine régénérative, eh bien, écoutez, c'est ce rêve de l'humanité, n'est-ce pas, qui consiste à garder la jeunesse éternellement, à turning old into young, et qui est représenté dans ce tableau qui date du XVIe siècle, et qui s'appelle The Fountain of Youth, par Lucas Cranac. Peut-être ce rêve où des gens âgés vont dans la fontaine de jouvence et ressortent très en forme, tout jeunes, et bien peut-être qu'il va se réaliser. Peut-être pas aussi parfaitement, mais enfin, on peut toujours espérer. Je vous remercie.